Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado de la Grande Gourmandise qui vous provient cette semaine de Sainte-Julie en Montérégie. Alors, on va parler d'un produit qui n'est pas un produit typiquement québécois, mais d'une entreprise qui est 100% québécoise. On est avec Marc-Alexandre et Montbois-Joly de 94 Celsius. Bonjour.
Bonjour, mon nom est Marc-Alexandre, comme mentionné. Je suis le propriétaire de la compagnie 94 Celsius, qui est une compagnie qui a déjà 6 ans en activité, bientôt 7 ans. On a démarré nos activités à Montréal en 2017, puis on a déménagé récemment sur la rive sud de Montréal, à Sainte-Julie, justement.
Alors, pourquoi ce déménagement, justement?
On avait un problème de location, comme la plus grosse partie de notre entreprise, c'est d'entreposer du café vert. Et que le coût avait vraiment explosé pendant la pandémie à Montréal. En déménageant sur la rive sud, ça a permis d'atténuer les coûts d'entreposage de notre café qui arrive des pays d'origine où est-ce que le café est produit. Il y aura une grosse différence au pied carré de l'espace qu'on utilise.
La spécificité, c'est qu'on n'arrive pas chez vous pour boire un café parce que vous êtes un café, mais vous êtes un distributeur de café.
Exactement. Fait qu'on fait vraiment la torréfaction. Fait qu'on n'est pas une place où est-ce qu'on va venir prendre un café, comme tu as mentionné. Des fois, on fait quelques événements. L'été, on ouvre nos portes de garage. Puis vous pouvez venir avec vos vélos, prendre un café directement sur place. Mais le but, c'est vraiment de travailler avec le producteur à l'origine pour promouvoir son produit, promouvoir sa ferme. Fait que le souci, c'est de distribuer ce café qui est torréfié.
Mais je ne doute pas que tu en goûtes beaucoup pour voir le produit des essais-erreurs. Comme on dit toujours, les entrepreneurs, c'est souvent ça. Hein?
Oui, tout à fait. Fait que même pour la section du café, on peut goûter une centaine d'échantillons pour en sélectionner une dizaine au final. Ah ouais. Puis après, chacune des cafés qu'on reçoit, on fait plusieurs batchs d'essais pour déterminer laquelle qui est la plus intéressante. Quel profil de saveur aussi qu'on veut lui donner au café. Soit on y va plus un café espresso, un café un peu plus filtre, soit qu'on veut un peu plus d'acidité. Fait qu'en fonction des goûts du terroir du café qu'on a sélectionné, on va sélectionner une torréfaction propre à ce café-là pour vraiment émettre toute sa panoplie de saveurs la plus intéressante, à notre avis.
Alors, je recule un peu dans le passé. Qu'est-ce qui fait qu'un gars qui a une expérience et un parcours scientifique, on va le dire, d'un coup, s'est réveillé un matin en disant « je vais faire du café
». J'aimais beaucoup le côté universitaire de la science. J'avais toujours aimé la biotransformation, bioalimentation. Fait que la transformation alimentaire, tant le vin ou la bière que je faisais à la maison, ou le vinaigre, peu importe. Ouais. Fait que le café venait rejoindre un peu le petit côté scientifique, où est-ce qu'on a des cours dans notre torréfacteur, où est-ce qu'on suit la torréfaction, puis on développe en fonction du temps de torréfaction, puis on peut jouer un peu le côté scientifique pour avoir des meilleurs arômes.
Donc, c'est-à-dire que la science rejoint le café quelque part, hein?
Exactement, c'est ça. On essaie d'appliquer des connaissances de science pour développer notre produit par la suite.
Alors, on est dans une zone plutôt industrielle de Sainte-Julie. On est, même si c'est sur la rue principale, ça s'appelle la principale, mais c'est plutôt industriel. Et on est dans vraiment, ça ressemble à un entrepôt, finalement. Hein?
Exactement, on est dans la zone industrielle automobile de Sainte-Julie.
Oui, c'est ce que j'allais dire, t'es entouré de
de trucs d'auto, de garage. Ouais. Et avant, ici, c'était une place, justement, pour les autos, okay. Un petit garage d'auto. C'est parce qu'on a des grandes portes de garage qui est vraiment intéressant pour recevoir nos grains de café directement en palette. Les containers peuvent arriver et on les décharge avec notre lift. Mm-hmm. Sinon, c'est quand même assez de base de torréfaction. Fait que nous avons beaucoup de racking pour storer le café, nos palettes. Puis par la suite, on a un torréfacteur qu'on a choisi qui est un torréfacteur allemand qu'on aimait bien parce qu'il est tout en fonte, fait qu'il garde beaucoup sa chaleur. Ça coûte un peu moins cher aussi pour le chauffer vu que la chaleur reste à l'intérieur, qui est chauffé au propane. Puis par la suite, nous avons une personne qui emballe des sacs avec une serrure automatique. Puis de l'autre côté, c'est la place pour répondre aux courriels, un peu plus bureau. Ouais. Puis tout en haut, on a un espace de laboratoire. C'est là qu'on fait tous nos tests sur les cafés. Fait que chaque batch qu'on torréfie, on va les goûter au deuxième étage, ce qui est plus un espace relax pour vraiment percevoir toutes les subtilités de notre café, puis accueillir nos invités aussi.
Alors, Marc-Alexandre, le principal de votre job, finalement, c'est de choisir des grains de café qu'on appelle verts, hein, c'est ça? Ouais. Et de les faire venir d'ailleurs dans le monde. Mais comment vous les sélectionnez? Est-ce que c'est votre goût? Est-ce que vous amusez parfois à sortir des sentiers battus? Qu'est-ce qui, au bout du compte, fait la différence entre un de vos cafés et tous les millions de cafés qu'on connaît et qu'on voit partout?
L'idée de base de l'entreprise, c'était de travailler majoritairement avec des femmes productrices. Fait que 75% de nos achats-ish, c'est pas un chiffre précis, provient de femmes productrices. Puis avec le temps, on a découvert des procédés qui commençaient à se développer, surtout en Colombie. C'est un pays qui nous intéresse vraiment beaucoup parce qu'ils ont vraiment une culture de café immense. Puis on travaille de plus en plus des lots un peu plus funky, recherchés, avec des fermentations spéciales, où est-ce qu'on va rechercher côté scientifique, on va sectionner des levures pour faire des fermentations directement à l'origine avec les producteurs. On fait aussi maintenant des co-fermentations avec des fruits. Fait qu'on peut boire un café qui goûte comme le fruit de la passion. Mais justement, c'était fermenté avec des fruits là-bas, avec le café, ce qui donne des arômes complètement différents de ce qu'on retrouve sur le marché canadien dans le moment.
Alors, on peut peut-être se rapprocher de la fameuse belle machine dont tu nous parlais il y a quelques secondes. Quel est le principe? Donc, vous achetez et vous faites venir les grains verts et ensuite, elle doit passer dans la machine un temps précis, une chaleur précise, j'imagine?
Exactement. On achète le café vert qui est pesé par la suite pour avoir toujours le même poids, qui va être mis en haut, puis on va ouvrir la trappe, ce qui va permettre le café de tomber dans un drum.
Qui ressemble un peu à un four, finalement?
Exactement, c'est comme un four à poulet, une rôtisseur à poulet. Ouais. Fait qu'à l'intérieur, ça tourne avec des palmes, ça va permettre de distribuer le café uniformément à l'intérieur. Puis en dessous, il y a des flammes à gaz ou propane qui vont venir chauffer le café. Puis nous, on a le contrôle au niveau du gaz, de la puissance du gaz, aussi avec le airflow, l'entrée d'air qui va jouer un rôle au niveau de la pression au sein du café, puis aussi l'évacuation de la fumée. Fait que toutes ces variantes-là permettent de contrôler le café comme qu'on veut. On veut rentrer environ en moins de 12 minutes le café pour garder vraiment tous ces arômes olfactifs. Là, parce qu'après 12 minutes, on a réalisé que...
Il est trop grillé, quoi, finalement?
Oui, l'acidité puis les arômes plus délicates disparaissaient. Ils étaient comme brûlés au final. On avait moins la complexité du café qu'on recherchait. Ça devenait plus des cafés classiques qu'on retrouvait sur le marché. Là. Mm-hmm. On essaie de faire des torréfactions plus courtes pour vraiment garder toutes les propriétés olfactives du café au sein même du grain. Là.
Puis alors, je l'ai vu faire parce que quand je suis arrivé, tu étais en train d'en faire une batch, comme on dit.
Exactement.
Mais c'est une toute petite batch. Moi, je m'attendais à voir ça par centaines de kilos, mais pas du tout. Là.
Non, malheureusement, pas encore. Pas pour le moment, mais on trouve que même si on travaille plus parce qu'on fait beaucoup de batch par jour, ça permet d'avoir vraiment un contrôle efficace sur nos grains de café. C'est sûr qu'il y a des machines aussi efficaces, un petit peu plus grosses, mais à un certain point, après, on va perdre le côté artisanal qui change vraiment le goût, je trouve, du café. Là. Par ça, ça devient plus du café de commodité qu'on retrouve en supermarché ou en épicerie plus classique.
Est-ce qu'un café de commodité veut dire un café bas de gamme ou pas spécialement? C'est aussi une histoire de goût, une histoire de qualité. Qu'est-ce qu'il faut aller chercher? Comment on trouve un bon café? C'est sûr qu'il y a le goût à la base, là, ce qu'on a en bouche. Là.
Il y a beaucoup de variantes. C'est sûr que les producteurs, un peu comme les artisans, là, si eux, ils ont le cœur à l'ouvrage puis vouloir développer leurs produits, c'est... 75% de la base, c'est qu'est-ce que le producteur de café a fait avec son café.
Ouais.
Quand on sélectionne, c'est vraiment nos principes de valeur. Là. C'est l'éthique derrière le café. Est-ce qu'il travaille bien? Est-ce qu'il paye bien ses employés? Puis ça a des répercussions sur le goût aussi du café. Comme si le grain bien travaillé, il va avoir plus d'arômes intéressants.
Mm-hmm.
Puis le café de commodité, souvent, c'est des cafés qui sont achetés plus par région et non pour justement ses saveurs ou pour tel producteur.
Par tonne, j'imagine.
Exactement. Fait que souvent, c'est plus des régions de la Colombie et non tels producteurs qui ont été sélectionnés.
Oui, tel producteur sur telle montagne à tel endroit.
Exactement. Nous, c'est très
ciblé, on va dire.
Exactement. Il y a vraiment une transparence du début de l'achat jusqu'à la fin. Donc, on connaît vraiment chacune des étapes de procédé pour se rendre jusqu'à nous.
Je ne vais pas dire que tu te bats contre des multinationales parce que ce n'est pas une bataille, là, on s'entend, mais ça reste que le café, ce sont des multinationales. Que ce soit les producteurs de café, ceux qui nous le vendent, ou même toutes les boutiques qu'on connaît, on peut toutes les citer, qu'il y en a par milliers, milliers, milliers. Comment on arrive à sortir son épingle du jeu?
On est quand même chanceux parce que dans le monde du café, il y a un côté très niche au café de spécialité comme qu'on fait. Donc, c'est reconnu
un peu plus haut de gamme, forcément.
Exactement, c'est ça. Un peu internationalement.
Ouais.
Ce qui nous a permis de développer notre produit un peu à l'international. On était vraiment bien reconnu au Japon. Où est-ce qu'on a vendu beaucoup de café. Ce qui nous a permis d'avoir un retour d'image de marque un peu partout dans le monde grâce à ça. Maintenant, on vend aussi en Corée, un peu en Europe et aux États-Unis. On a un café qui nous sert à Brooklyn à chaque semaine. Fait que je crois qu'avoir le petit côté niche de café de spécialité, c'est vraiment un marché à part du café d'une grande bannière.
Classique, quoi, qu'on connaît.
Exactement,
tous,
qu'on connaît. Le côté niche, puis il y a vraiment des fervents comme le vin qui essaie toujours de trouver des nouvelles arômes, trouver des nouveaux producteurs de café pour goûter.
C'est infini finalement.
Exactement. C'est tout le temps dans l'exploration, dans la découverte de nouvelles saveurs. Là.
Alors parle-moi de l'équipe. Là, on voit Émilie qui est devant le fameux ordinateur et la machine parce que tout ça est fait électroniquement. Alors qui fait quoi?
On est quand même assez une petite équipe. Donc on a Émilie qui fait la torréfaction puis aussi qui aide à l'emballage des sacs.
Mm-hmm.
On a Maurice qui, lui, sa job principale, c'est vraiment de faire les sacs, les remplir, les saler puis les entreposer sur les racks à la disposition pour
prêt à la vente, finalement.
Exactement,
ouais.
C'est ça. On a aussi des gens qui ne sont pas ici, mais on a une comptable qui travaille chez elle pour faire la comptabilité. On a une designer graphique qui s'appelle Mélanie, qui fait toute notre graphisme, qui est quand même une grosse pause.
Oui, c'est ça, mais j'allais le dire, hein, parce que tout est réfléchi, tout est léché.
Tout à fait, fait que c'est vraiment l'idée de base de la compagnie, c'était de trouver un designer graphique avec qui travailler, puis qu'elle allait croître aussi avec la compagnie. Puis dès qu'on est tombé sur Filiarem, qui est Mélanie Filiatro, on a vraiment aimé son style. On trouvait que c'était un match parfait. Fait que depuis le début, elle est avec nous, puis elle travaille à chaque semaine pour promouvoir l'image de marque de 94 Celsius. Ça, c'est comme un truc important maintenant avec les réseaux sociaux, puis on est vraiment content de l'avoir fait pendant la pandémie, parce que c'est là que ça a permis d'exploser.
Ouais, de décoller, c'est ça.
Les gens étaient sur Instagram, puis ils regardaient justement qu'est-ce qu'on faisait. Ça a augmenté, émoussé les ventes.
Là, explique-moi ce qui se passe. Émilie vient de faire démarrer le torréfacteur.
Oui, exactement.
Ça?
Elle vient de partir sa prochaine batch. Donc, elle avait mis le café dans l'entonnoir qui est au-dessus. Puis elle a poussé la porte qui a fait rentrer le café dans le torréfacteur.
Donc là, il chauffe et il grille finalement. C'est
exactement.
Ça?
Fait qu'au début, on est à full gaz. Toute la puissance est là.
Au maximum, OK.
Du torréfacteur. Puis par la suite, elle va tranquillement le diminuer pour arriver à la fin de torréfaction un peu plus douce pour, comme un avion, là, atterrir tranquillement.
OK, on va du plus chaud au moins chaud finalement.
Oui, exactement.
Puis c'est juste 12 minutes, tu disais.
Oui, on essaie d'aller vers 10 minutes. Fait qu'en bas de 12 minutes.
OK.
Fait que c'est assez rapide chacune des batches.
C'est quoi vos défis aujourd'hui?
Comme la majorité des entrepreneurs, je crois, qui sont en expansion, c'est le cash flow toujours, parce que la compagnie est toujours en expansion, toujours une augmentation de 30-40% de nos revenus par année.
Oui, puis toi, tu achètes des marchandises qui dorment sur tes racks le temps que tu la torréfies, que tu les mettes en sachet, que tu les vends.
Exact, c'est
l'argent qui dort.
Comme certains producteurs, on doit acheter la totalité de leur récolte d'un seul coup.
Ah oui, OK.
Donc, c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars qui partent en claquant des doigts. Donc, nécessairement, c'est ça. C'est la partie qui est la plus problématique de la compagnie. Là, c'est avoir beaucoup d'argent qui dort sur nos tablettes. Mais qu'on sait qu'on va vendre par la suite, mais c'est un cercle infini parce que l'année suivante, il faut déjà racheter la récolte au complet pour s'assurer qu'on a le grain qui nous intéresse.
Alors, vous avez une autre spécificité. On a tous en mémoire les années 80 où le seul café qu'on buvait, c'était un café lyophilisé. Finalement, on mettait de l'eau chaude, puis vous êtes reparti là-dedans. C'est-à-dire que vous vendez ça aussi?
Oui, on a recommencé, on a essayé. On voulait démocratiser le café, être moins un peu niche, puis aller plaire à tout le monde. Donc, on a fait un café instantané avec un partenaire en Alberta.
Mais de qualité.
De qualité. Fait qu'il prend notre café qu'il va infuser chez lui et qu'il va utiliser la lyophilisation de grande qualité au niveau de son café pour faire des sachets de café instantané qui goûtent vraiment identiques à notre café. Là, c'est flushé avec de l'azote. Fait qu'il n'y a pas d'oxydation au niveau de café instantané.
Et vous faites aussi des capsules compatibles avec des célèbres marques connues dans le monde entier qui appartiennent aussi à une multinationale milliardaire.
Exact.
Avec aussi votre café spécifique dedans, mais même la capsule est spéciale.
Oui, exactement. On a, dans le but encore de démocratiser le café de spécialité pour aller chercher un éventail plus grand, on a utilisé des capsules compostables, ce que la multinationale ne faisait pas encore dans le moment, qu'on trouvait intéressant, qui sont compostables au Québec avec le PLA.
Ouais.
Ça permet une capsule de haute qualité, même goût, même saveur que nos cafés, mais dans une machine que quasiment tout le monde a à la maison.
Où est-ce qu'on peut trouver vos produits, alors? Je veux acheter vos produits, j'habite à Gaspé ou à Gatineau. Là, je prends toujours ces deux villes-là, je ne sais pas pourquoi.
C'est sûr que le plus simple dans le moment, c'est notre site web.
Oui.
Sinon, au niveau des métros, Provigo, IGA, on est quand même bien représentés. Mais vu que c'est un produit un peu plus dispendieux, plus niche, c'est souvent dans les grandes villes. Mais sinon, on a quand même 300 points de vente-ish Québec-Canada. Ouais. Vous devriez sûrement avoir des petits sacs bleus poudre quelque part sur les tablettes.
OK, puis la question la plus difficile. Si je dois en goûter un café 94 Celsius?
Je crois qu'en ce moment, c'est la fête qu'on a inventé avec un producteur de Colombie, justement, qui avait fait une fermentation avec des fruits de la passion. Nous, on a travaillé avec Tonnellerie Mono, qui est un tonnelier de barils de fût de chêne en estrie. Il nous a fait un baril pour nous, où est-ce qu'on a transformé un grain du Honduras dans ce baril-là, qui venait de la Jamaïque avec du rhum autrefois qui a été vieilli 20 ans.
Wow.
On a mélangé les deux cafés, fait que c'est un café vraiment explosif en saveur. C'est comme un mocktail sans alcool en café.
Dernière question, le nom, il vient d'où? 94 Celsius, je ne dois pas être le premier à poser la question. Hein?
Non, c'est une question assez classique, mais on savait qu'on voulait déjà exporter notre café. Fait qu'avoir un nom international qui marche dans toutes les langues. Puis aussi, c'est comme la température idéale pour faire notre café filtre à la maison. C'est l'infusion qui n'est pas trop chaude, qu'on ne va pas avoir les goûts amers.
Oui, il ne faut pas que ça boue, là.
Exactement ça, on va sortir un peu plus l'amertume du café. Puis 94 Celsius, c'est une bonne température pour extraire la majorité des cafés.
Merci beaucoup, Marc-Alexandre.
Merci à vous.
Et puis à vous qui nous écoutez, bien sûr, tapez 94 Celsius sur Internet. C'est sûr, vous allez tomber sur le site Internet. Vous allez voir les réseaux sociaux. Très agréable avec une belle image qui va vous donner envie immédiatement de boire une tasse de café. On se retrouve dans 15 jours. Nouveau balado sur les routes gourmandes du Québec. Puis d'ici là, n'oubliez pas, mangez et buvez local. Bye bye tout le monde.